Voilà, je remercie le Seigneur pour cette opportunité que nous avons d'être là ensemble. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, le premier chapitre. Nous y sommes encore, mais nous avons terminé l'introduction. En arrivant jusqu'au verset 18, c'était surtout de l'introduction un peu... Paul était en train d'expliquer pourquoi il écrivait cette lettre, pourquoi il y avait un besoin d'écrire cette lettre. Et maintenant, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet, dans sa dissertation et ses arguments. Et donc, là, aujourd'hui, eh bien, nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Nous allons voir tout ce passage-là. En fait, rapidement, dans le premier chapitre, dans le chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 2, il va s'adresser à trois catégories de personnes. Ici, dans le premier chapitre, il va s'adresser à ces personnes qui sont d'origine païenne, mais qui ont quand même été exposées un petit peu à la croyance en Dieu. Et puis ensuite, au début du chapitre 2, il va parler à ceux qui ont bonne conscience, hein, qui sont contents d'eux. Et puis dans la dernière partie du chapitre 2, il va parler aux Juifs. Donc à chacune de ces catégories, ils ont des besoins différents, mais il va leur dire à chacun, et vous avez besoin de Jésus-Christ. Hein, donc c'est un peu, voilà, je vous donne un peu le plan hein, pour les trois dimanches. Donc nous allons lire maintenant cette première partie, donc la deuxième partie du chapitre 1 de Romains. Donc, Romans chapter 1, verses 16 through the end of the chapter. Donc, je commence au verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Ouais. L'avantage, c'est d'être clair, là. Hein? Donc, comme je vous ai dit, là, il va s'adresser à ces païens qui viennent un peu de partout, hein, parce qu'il s'agit de Rome. Donc, ces païens, ils viennent de tous les territoires où sont passées les troupes romaines. Et avec chacun, avec son arrière-plan, mais ils arrivent et ils sont exposés les uns aux autres à des idées. Et donc, Paul va s'adresser à ce groupe en particulier et il va traiter de leurs problèmes. C'est en fait, et il nous dit, la condamnation de Dieu est sur eux, ils sont inexcusables, il dit, et donc, voilà. Et il va leur dire pourquoi. Hein, ces différents groupes sont sous la condamnation de Dieu pour différentes raisons, mais comme nous l'avons répété, ce ne sont que ceux qui se mettent à l'abri de la croix de Christ qui vraiment sont sauvés. Hein. C'est le seul moyen de se protéger de la colère de Dieu, comme nous l'avons vu la semaine dernière. La situation de Rome au 1er siècle n'est pas différente de celle que nous vivons aujourd'hui, hein, dans nos grandes villes. Et je vais vous lire un passage du commentaire d'Alfred Kuhn sur l'Épître aux Romains, juste un paragraphe qui concerne la situation morale et religieuse de Rome à cette époque. Puisque c'est très bien dit, ce n'est pas la peine que je le dise autrement. Il nous dit qu'à Rome, donc à cette époque-là, une profonde corruption morale régnait à Rome au 1er siècle. 159 jours étaient fériés chaque année. On n'est pas encore là, hein. 93 d'entre eux étaient réservés aux jeux du cirque et aux représentations diverses données aux frais du gouvernement. La situation religieuse était très composite. L'ancien polythéisme était partout sur son déclin. Les troupes ramenaient journellement de nouveaux cultes d'Orient. Il y eut un véritable engouement pour les religions à mystère dans la capitale. On trouve des monuments de Mithra depuis l'époque de Tibère. Néron lui-même vénérait l'Astarté syrienne. Toutefois, ces divinités assez primitives, servies par des rites plus ou moins sensuels, ne pouvaient satisfaire les exigences intellectuelles des Romains cultivés. Le monothéisme des Juifs attirait beaucoup de païens. Juvénal se moquait de ses concitoyens qui se convertissaient au judaïsme. Mais leur exclusivisme et leur légalisme les retenaient souvent sur le seuil de cette religion. Chacune des 11 synagogues romaines comptait un nombre assez important de sympathisants et de craignants Dieu, qui constituait un public tout prêt à accepter le message chrétien. L'apôtre était certainement conscient des différents éléments de cette situation, ce qui explique son vif désir d'évangéliser la cité impériale. Donc il y avait, comme il dit, il y avait toute une masse de personnes qui se trouvaient là, qui étaient un peu attirées au judaïsme. Le monothéisme avait quand même un certain attrait, mais en même temps c'était assez strict et donc ils étaient hésitants. Et donc l'apôtre Paul va leur parler, dit vous êtes exposés à la vérité, mais qu'allez-vous faire, hein? C'est un peu son argument. Et donc il s'adresse à ces personnes qui viennent d'arrière-plan très différents et puis qui ont des connaissances très confuses sur l'évangile et le sens de l'évangile et ceux dont parlent les juifs. Et pour eux, c'est tous des juifs, mais en même temps, il y avait des juifs chrétiens et des juifs non chrétiens et il y a de la confusion. Hein. Donc l'apôtre Paul a vraiment ça à cœur et comme je vous ai déjà dit par le passé, il n'y a aucun apôtre qui est venu qui était le fondateur de l'Église de Rome, hein, ni Pierre, ni Paul, ni un autre. Hein. Donc ce sont des gens qui ont entendu partout, qui viennent là, et puis alors qui ont différentes idées, et d'où l'importance de l'arrivée de Paul et le fait qu'il écrive une lettre avec un texte aussi précis que ce qu'il a. et nous en profitons bien sûr. Même les synagogues de Rome ne semblent pas avoir trop de lien avec Jérusalem, parce qu'il nous dit à la fin des Actes des Apôtres, quand Paul arrive à Rome, il va s'adresser aux Juifs, puis il dit « bon, on n'a rien entendu sur toi ». Hein, donc s'il n'y a vraiment pas, c'est vraiment Rome, c'est un peu assez, c'est très loin de Jérusalem, et c'est assez isolé, mais il y a beaucoup d'idées, il y a un brassage de beaucoup d'idées, et donc l'apôtre Paul va s'adresser à ces différentes catégories. Il y avait très certainement certains juifs qui avaient été à Jérusalem pour Pentecôte. Et puis là, bien sûr, ils ont vu ce qui s'est passé avec les disciples, et puis ils ont entendu ce qui venait de se passer, et qu'un certain Jésus avait été crucifié sur la croix, et se peut que certains ont cru, mais bon, ils avaient des petites connaissances, et puis ils sont rentrés chez eux après les fêtes. Et donc, et puis après, il y en a d'autres qui ont glané par-ci, par-là, et qui sont arrivés un peu plus tard avec des idées, et donc tout le monde essaie de faire un quelque chose. Donc ce n'est pas des mauvaises intentions, mais c'est l'état des choses, qui peut-être est l'état des choses pour nous aujourd'hui. Hein. Les gens ont été exposés à beaucoup de choses, le christianisme, mais en fait c'est quoi le christianisme, et le christianisme est en train de passer par une époque assez, une période difficile là, ces temps-ci, surtout par rapport à son image aux gens de l'extérieur. Hein. Même, il nous dit même se déclarer agnostique, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, hein, j'entends ceci, c'est chose qui se dit aussi si facilement de nos jours, c'est déjà, il dit, mais un agnostique qui sait que Dieu existe, eh bien, devrait poursuivre sa recherche pour mieux le connaître. C'est pas une excuse de rester et dire, ben, je ne sais pas, donc je fais rien. Hein, donc, c'est vraiment, si je sais que Dieu existe, eh bien, l'apôtre Paul va nous dire dans ce passage, eh bien, il faut le glorifier et il faut lui rendre grâce, hein, le remercier pour ce qu'il est. Sinon, ben, c'est comme si on n'avait rien fait. Hein, donc, Paul s'adresse à ces païens de Rome de la même manière qu'il l'avait fait avec les Athéniens. Hein, donc, dans Actes chapitre 17, Paul s'était adressé à ces Athéniens, il s'était promené dans la ville, et puis il avait trouvé un hôtel adressé au Dieu inconnu. Et donc, bon, il a pris ça comme, il dit, ben justement, et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, en s'adressant à ces Athéniens, il n'essaye pas de démontrer l'existence de Dieu, il parle comme si Dieu existait, mais vous ne le connaissez pas. Il existe, il n'est pas loin, mais vous ne le connaissez pas. C'est un peu, si je vous lis un peu ce que Paul a dit à ces Athéniens, hein, donc aussi c'est là aussi c'est la grande grand cocktail hein, de pensée hein, de Athènes. Il nous dit hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les hommes, les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tout homme sorti d'un seul sang, habite sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il parle, vous voyez comment il parle. C'est sûr, c'est un mélange de gens, des philosophes et de tout. Quoi. On a tous entendu parler des Grecs et ceux qui se faisaient hâte. Mais il dit, il y a un Dieu que vous ne connaissez pas, mais qui est là et qui est prêt. Et ce que vous devez faire, c'est le chercher, le découvrir. Puisque c'est lui qui vous donne l'existence, qui vous donne la vie et le pouvoir de vivre et le mouvement. Et donc, et Paul, un peu ici, il s'adresse un peu de la même manière, hein, en moins long, et il dit, justement, il dit, voilà, je vous parle de Dieu, invite à connaître Dieu, le Créateur de toutes choses et de tout ce qui s'y trouve, Créateur du monde. Vous savez, il dit que c'est tellement évident que Dieu existe. Il dit que ça se voit même, certains aspects de Dieu se voient même à l'œil nu. C'est-à-dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Vous savez, personne ne naît athée. Devenir athée, c'est un choix que quelqu'un fait. On ne naît pas athée. Il y a un moment où on se déclare athée. Mais il faut dire que à partir du moment que je me déclare athée, je fais mention de Dieu. Hein, parce que le mot athée veut dire donc a, négation, et théos. Donc je ne crois pas en Dieu. Mais même quand je dis que je ne crois pas en Dieu, dans un sens, je suis en train de dire que Dieu existe. Hein. Donc, et certains refusent tout simplement de croire en Dieu, parce que, et pour toutes sortes de raisons, hein, mais ils n'acceptent pas le Dieu qui leur a été présenté. Et je me mets à la place de certains, et si j'avais entendu ce que eux ont entendu, et certainement que je serais athée aussi. Hein, je compatis tout à fait avec ceux qui se trouvent face à une confusion et disent « mais ça ne peut pas être le vrai Dieu ». J'ai rencontré des athées qui sont de différentes origines, hein, issus de différentes religions, et disent « mais le Dieu de cette religion, tel qu'il m'a été présenté, je ne peux pas l'accepter ». Et je dis « je comprends, et c'est vrai, et tu as raison de peut-être rejeter cette révélation de Dieu ». Mais recherche, dans l'Évangile, on trouve Dieu tel qu'il est vraiment, tel qu'il se révèle, et non pas tel que les hommes le décrivent. Dès que l'homme décrit quelque chose, ça commence à lui ressembler. Hein, et justement, bah, c'est pas le malade qui doit décrire. Hein, certains, devant le besoin, ils sentent le besoin de croire. Ils savent qu'il y a bien quelque chose. Et comme ils ne veulent pas reconnaître Dieu, donc ils se réclament de croire en Mère Nature. Mère Nature, elle est gentille, elle est très bien. Et puis c'est vrai qu'elle n'exige pas grand-chose, sinon d'être respectée, puis qu'on prenne soin d'elle. Et puis c'est très bien. Et en personnalisant la nature, hein, en l'appelant Mère Nature, eh bien, bien sûr, ils pensent au coucher de soleil. C'est sûr que c'est beau, hein, surtout ici. Hein. Ah. Et puis, ils pensent peut-être au parfum que dégage une fleur. Et puis, ils pensent au ruisseau qui gazouille dans la forêt, au canari qui siffle dans sa cage. Et tout ça, il dit « Mère Nature, ah, c'est beau ça, ça me... ». Mais bon, vous savez, Mère Nature, elle a aussi des requins, hein. Elle a aussi des tsunamis, elle a aussi un moustique, hein, qui tue plus de monde que n'importe quel autre, c'est notre plus grand ennemi, surtout le mien. Et puis les vautours aussi, c'est dans la nature. Vous savez, la nature, c'est pas seulement... Alors quand on dit Mère Nature, il faut tout prendre, hein. Je ne peux pas dire seulement je prends ce qui est joli, ce qui me plaît, puis je dis non. Le reste est là, tout est là. Et en fait, la nature, c'est un monde de prédateurs. Hein. Tout le monde est mangé par quelqu'un. Hein, puis c'est ça. En fait, d'un autre côté, c'est cruel, la nature. Mère Nature n'est pas connue pour sa miséricorde et sa bonté. Mais plutôt, elle fonctionne selon ce qu'on appelle les lois de la nature. C'est comme ça, ça te va, ça te va pas, c'est ça. Hein, donc c'est vraiment, les gens, Mère Nature, c'est pas une option intéressante. Hein, donc, et j'en ai rencontré même ici dans la ville, à Fréjus, hein, et on a dit, moi je crois en Mère Nature. On dit, bah, écoute, t'es pas gâté, hein. Parce qu'il nous dit, en fait, et dans le passage là, de Romains chapitre 1, il nous dit, au verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme on l'a eue depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La puissance de Dieu est manifeste dans sa parole, qui crée le monde et qui maintient le monde. » Il y a quand même quelque chose derrière tout cela. On a tellement l'habitude de quelque chose, si ce n'est pas entretenu, si ce n'est pas suivi, s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui s'assure que ça fonctionne bien, ça ne fonctionnera pas bien. Ça s'arrête et ça se détériore. Donc, si je m'arrête, je me dis, mais derrière ce monde qui tourne, eh bien, s'il y a une horloge, il y a un horloger qui l'entretient. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer. C'est pas, si on regarde comme une vache qui regarde passer le TGV, c'est sûr que vous n'allez rien comprendre. Mais, et certains sont là, la vie, ça passe, et puis les journées passent, mais ils ne s'arrêtent même pas pour réfléchir. Et surtout, ils ont peur de réfléchir et de se poser quelques questions. Certains veulent se moquer de nous les croyants et puis nous dire, alors, c'est la poule ou l'œuf que Dieu a créé en premier ? Je lui dis, écoute, réfléchis, tu trouves tout seul. L'œuf tout seul, il ne donne rien. Il faut une poule, sinon l'œuf ne peut rien faire. Et puis, pas seulement une poule, mais il faut un coq aussi. Sinon, l'œuf ne donne rien. Et je dis, mais plutôt, moi, je pose la question autrement. Il fallait qu'il y ait le coq et la poule en même temps. Sinon, on a rien du tout. Et j'aimerais pousser la chose même plus loin et dire, et qu'est-ce qui est venu en premier ? Le coq et la poule ou le code génétique qui les permet de se reproduire ? Maintenant, on sait. Maintenant, on est assez intelligent, on a fait des découvertes, on sait qu'il y a un code génétique qui contrôle tout ça, qui décide tout cela. Et ce code génétique, il vient d'où ? Quand je pense, il y a une certaine époque, bon, les plus jeunes peut-être aujourd'hui ne savent pas trop ce que c'est que le code Morse, mais il y a une époque, mais c'était convenu, c'était quelque chose qui était décidé. Si vous êtes un peu dans l'informatique, vous connaissez le MS-DOS, et vous savez que c'est un code avec des 0 et des 1, on arrive à faire tout ce que l'ordinateur fait avec seulement des 0 et des 1. Mais il y a un code, après il y a des séries de 0 et de 1, et chacun veut dire quelque chose. Mais il fallait que ça soit convenu. Il y a quelqu'un qui a mis ça en place, sinon ça ne marche pas. Et le code génétique, il est venu comme ça tout seul. Il y a une intelligence derrière le code génétique. Et le code génétique, c'est quelque chose de tellement stable qu'à partir de là, même des années après, on peut condamner quelqu'un et dire que c'est quelqu'un qui a commis l'homicide. C'est un criminel. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé l'ADN quelque part. Vous savez, c'est tellement sûr. C'est pas quelque chose qui au hasard. C'est pas le produit du hasard. Il dit, arrête-toi. Peu importe ton niveau d'observation, que tu observes au travers du microscope ou du télescope ou avec tes yeux, eh bien, tu vas voir des choses extraordinaires. Et tu dis, mais et tout cela, qui est derrière ? Il dit. C'est tellement évident si tu t'arrêtes pour réfléchir. La divinité de Dieu est exprimée par sa bonté. Tout à l'heure, le frère nous parlait des attributs de Dieu. Mais la bonté de Dieu, c'est un de ses attributs qui ne tue pas. La sainteté de Dieu, comme il nous disait, ça, des gens étaient foudroyés à cause de la sainteté de Dieu. La puissance de Dieu aussi, c'est extraordinaire. La bonté de Dieu, c'est quelque chose qui ne tue pas l'homme. Comme Moïse, dans Exode 33, Moïse a dit, Dieu, je voudrais te voir. Il a dit, c'est pas facile ça. Mais ce que je vais faire, je vais te montrer juste une partie. Je vais te montrer ma bonté. Ça, au moins, tu pourras survivre. Et vous savez, c'est ce que Dieu nous montre. Et lorsque je lis l'Évangile, je trouve la bonté de Dieu. Vous lisez la vie de Jésus-Christ, et la bonté de Dieu est là partout. Sa manière de recevoir les gens, sa manière de parler aux gens. La bonté de Dieu est évidente dans le monde. On regarde et Vous trouvez sur Internet, vous trouvez des vidéos d'animaux qui d'un coup sont doux avec leur ennemi. On trouve des choses extraordinaires. La bonté est là, dans la nature. Et eux, ils ne comprennent pas trop pourquoi, mais ça provient de leur créateur. Mais Dieu, il a dit surtout, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3, versets 4 et 5. Il nous dit la bonté de Dieu a surtout été manifestée en la personne de Jésus-Christ. Comment il a pu, n'importe qui, des hommes violents comme l'apôtre Paul, des personnes comme Corneille, c'était un homme qui faisait le bien, même s'il était, il connaissait pas Dieu encore, mais c'était un homme qui faisait que du bien. Il nous parle, la Bible nous parle de personnes qui étaient de bonnes personnes, mais qui étaient quand même perdues parce qu'ils ne connaissaient pas encore Jésus-Christ. Ce que Dieu reproche aux hommes est de ne pas poursuivre leurs recherches. Ils ont fait des constatations. Ils ont pu voir des choses. La question, c'est de poursuivre cette recherche et d'aller jusqu'au bout. Et l'homme a été créé de manière à pouvoir poursuivre ses pensées. Il arrive à une pensée, après construit sur cette pensée, et puis continue à construire sur cette pensée. C'est extraordinaire ce que l'homme peut faire. Il peut construire sur un mensonge et puis partir dans l'erreur, et comme il peut construire sur de la vérité et arriver à aboutir à quelque chose de très bien. Parfois il le fait par accident, parfois il le fait délibérément, parfois il le fait, c'est volontairement qu'il conduit dans l'erreur parce qu'il veut éviter certaines vérités. Les hommes pécheurs peuvent chercher Dieu, même si par la suite il faudra un peu l'intervention de l'Esprit de Dieu qui les éclaire un petit peu. Il faudra peut-être quelqu'un qui leur parle de Jésus-Christ. C'était le cas de Corneille, c'était un homme, l'ange est même venu lui dire, écoute, Dieu a entendu tes prières et il veut exaucer tes prières et tout, mais va chercher Pierre, il va te raconter ce que tu as besoin de savoir. Et il va lui parler de Jésus-Christ. Et quand Corneille recevra tout cela, eh bien, sa vie nouvelle se confirmera par le fait qu'il aura parlé en langue. Une chose extraordinaire que les apôtres ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que les païens étaient capables de le faire. Ça n'arriverait jamais chez eux. Ou bien l'eunuque éthiopien qui était allé jusqu'à Jérusalem et dans sa recherche et qui avait même le texte devant lui, il était en train de le lire. Mais il dit, comment est-ce que je peux comprendre si on ne m'explique pas? Et puis alors c'est Philippe qui vient et puis qui lui parle de Jésus-Christ. Et là, tout d'un coup, tout devient clair. Il dit, poursuis ta recherche. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvrira. Les païens de Rome, même s'ils venaient de toutes les régions par lesquelles étaient passées les troupes romaines, ils avaient accès à une information de par le biais des juifs qui étaient là, de par le biais de ceux qui se racontaient et ceux qui circulaient de plus en plus. L'évangile, on disait de Paul, il a renversé le monde. Donc c'était une information. Et même il dit aux Romains, il dit, mais le monde entier a entendu parler de vous. Donc les voies romaines, c'était l'internet de l'époque, c'était la toile de l'époque. Et ça permettait à l'évangile de circuler. Et tout le monde avait entendu des choses, il savait que ça existait. Il dit, mais votre problème, c'est qu'il faut poursuivre la recherche jusqu'à ce que vous trouviez la réponse. Et il dit, mais ce qui est arrivé ici à ces gens-là, eh bien, ils ont été exposés à ces choses, mais il nous dit, mais au verset 21, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Il dit, vous êtes arrivé jusqu'à un certain point, et puis après vous êtes arrêté, et vous n'avez pas poursuivi, et puis vous êtes parti dans une autre direction. C'est extraordinaire ce que des personnes avec de grandes capacités intellectuelles peuvent croire quand elles veulent exclure Dieu. C'est fou la gymnastique mentale qu'ils arrivent à faire pour essayer d'éviter que Dieu soit dans l'équation. Dans notre société, on a réécrit les règles de la vie, on a réécrit les règles du mariage, on a réécrit les règles de la famille, on change tout pour que ce ne soit pas comme Dieu a dit. Allez comprendre pourquoi, si je tue une femme, c'est grave. Si elle est enceinte, c'est plus grave. Mais si elle décide d'avorter, ça va. Comment à un moment, c'est une vie, c'est deux vies, après, c'est même pas une vie. Et en plus, dans nos sociétés, et si elle se coupe les veines, eh bien, elle devient un cas psychologique. Elle a un gros problème. Allez comprendre où est la règle. Comment est-ce qu'on décide? Sinon, Dieu a dit comme ça, donc on fait le contraire. Mais sinon, où est la logique derrière et les valeurs qui sont là, qui règnent? Elles ne sont pas là. Et pourtant, les gens aujourd'hui, ce n'est pas des fous, c'est des gens intelligents. Et j'ai un grand respect pour leur intelligence. Mais la question, c'est qu'on fait on se tord dans tous les sens pour essayer d'éviter de mettre Dieu ou ses valeurs. Encore si le monde avait réécrit les lois morales et que cela avait donné plus de sécurité, plus de paix, plus d'entente, plus d'honnêteté, ben, ils auraient un argument de valeur, hein, de poids. Hein, après, là, mais en fait, c'est pas meilleur. En fait, il y a même de la pagaille. Et alors, pourquoi réécrire les lois pour que ça soit moins bien? Mais tout ça, c'est parce que on a changé la vérité de Dieu en mensonge. Hein, c'est ça qu'il nous dit. Il a dit, vous êtes arrivé à un certain point, vous avez vu Dieu, vous avez compris. Et l'étape suivante, c'était de le glorifier comme Dieu et de lui rendre grâce. Mais vous avez refusé, et alors après, c'est parti dans des choses pas très logiques. Et alors après, ça crée une confusion totale à tous les niveaux. Et le résultat, je lis au verset 28 à 31, hein, c'était la liste qu'on a lue tout à l'heure, et puis ça pourrait décrire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Hein. Donc au verset 28, il dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. » Et oui, il dit, oui, ben Dieu les a dit, bon, vous avez refusé, vous me refusez, alors faites ce qui vous est naturel. Et voilà ce que ça a donné. Et notre monde, surtout dans nos grandes villes, mais même ce matin aux informations, il parlait de ce prisonnier qui a jeté de l'eau bouillante à la face d'un gardien quand il a ouvert la porte. Voilà, ça, on ne peut pas dire qu'on a fait des progrès. On part de l'Occident, on a l'éducation, tout ça, mais ça ne change pas le cœur de l'homme. Et Paul dit, écoutez, arrêtez. Dieu est là. Dieu a des attributs. Et si vous tournez vers Dieu, c'est d'autres valeurs. C'est une autre vie. C'est pour ça qu'il avait dit, déjà au verset 16, il a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu, comme le frère tout à l'heure il soulignait, la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui peut transformer, faire chose que vous ne pouvez pas imaginer dans votre vie. Et vous donner un sens et un ordre. Et même si vous marchez dans un monde, et puis à certains moments, vous marchez dans le sens contraire, mais au moins vous savez où vous allez. Ici, cette influence, avec les autres, mais cette influence, qu'est-ce que ça a donné à Rome? Eh bien, nous connaissons l'histoire. ça a mené Rome à une décadence morale et une décadence à tous les niveaux. Et cet empire glorieux qui était tellement bien fait, et il y a 20 siècles, ils avaient de l'ordre qu'on admire encore aujourd'hui, et bien ils l'ont tout perdu. Tout s'est détruit. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu mettre Dieu à sa place. Une fois que les voies romaines avaient permis à l'évangile de venir jusqu'à Rome, mais on l'a refusé. Hein, Néron lui-même, il s'est servi des chrétiens pour en faire des torches et éclairer la ville. Hein, on est arrivé à ce point-là. Et bien, c'était le début de la fin de l'Empire romain. Et vous savez, je ne sais pas. J'entendais ce matin au France Info, il disait, je ne sais plus qui, je n'ai pas retenu le nom de quelqu'un, qui disait, la fin du monde, c'est pour bientôt. C'est pas pour demain, mais c'est pas loin, il disait. Et ça, c'est un gars qui n'a rien, il ne parle pas de la foi, ni rien du tout. Mais il voit les tendances, il voit où on va, et tout indique que ça, on va tout droit vers la catastrophe. Hein, on s'est jeté du 100e étage, on n'est pas arrivé jusqu'au sol, donc tout va bien encore. Mais il se rapproche. C'est un peu l'idée que se fait l'homme lorsqu'il s'arrête. Bon, mais il y en a qui préfèrent le plaisir, on s'amuse, on ne pense pas. Et puis voilà, comme ça au moins j'arriverai inconscient. Ben oui, mais ça ne change rien à la vérité. Hein. Et Paul, eh bien, il n'est pas sans réponse. Il dit, écoutez, arrêtez-vous là où vous êtes. Levez les yeux. Considérez Dieu, cherchez-le, découvrez-le, et parce que lui, c'est la puissance de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, celui qui sait au fond de son cœur que Dieu existe, mais qui vit dans ce monde comme si Dieu n'existait pas, qui ne le glorifie pas, qui ne le remercie pas, eh bien, il nous dit, il est inexcusable. Il nous dit à la fin du verset 20, il dit, ils sont donc inexcusables. Il n'y a aucune explication. Dieu ne pourra rien faire. Hein. Tant qu'on reste dans cet état-là, Dieu ne pourra rien faire. Mais s'il y a la foi en Dieu, si nous comprenons qui Dieu est, et je le recherche, peu importe ce que les autres pensent, et ils ne pensent pas tous pareil. Sinon, il y aurait au moins un parti en France. Mais bon, là, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le meilleur fromage. Alors, pensez, se mettre d'accord sur cela. Mais, vous savez, Dieu est un Dieu extraordinaire. Et peu importe ce que tout le monde pense, et vous savez, il y a même une loi, je ne sais pas qui l'a inventée, mais... on nous dit, tout le monde le fait. Et si tout le monde le fait, donc c'est bien. C'est permis. Depuis quand tout le monde le fait ? C'est chez les moutons seulement. Hein ? Il y en a un qui le fait, tout le monde le fait. C'est pour les moutons, ça. C'est pas pour les êtres humains. Chacun réfléchit à ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et il ne bouge pas tant qu'il n'a pas décidé. Et peu importe ce que les autres pensent de nous après. Nous sommes des êtres humains avec la capacité de réfléchir. Faisons usage de cette intelligence pour rechercher Dieu et de le trouver. Parce qu'il dit sinon, vous êtes inexcusables. Et Dieu, dans sa colère, il ne peut pas faire autrement. On a dit, dimanche dernier, on a dit, lorsque c'est injuste, c'est normal, c'est juste que Dieu se mette en colère. La colère, c'était cette expression émotionnelle en réaction à l'injustice. Et Dieu dit, c'est pas juste. Tout est là, tout est devant vous, et vous vous détournez. C'est pas juste avec moi. Et il se met en colère. Mais il est justifié dans sa colère. Mais nous ne sommes pas justifiés dans notre comportement. Oh, que le Seigneur nous aide et nous éclaire. Mais si nous avons rencontré Dieu, nous savons que Dieu existe, alors il dit, glorifie-le. Glorifie-le. Et rends grâce, constamment. Rends grâce. Et c'est ça qui nous permet de rester dans la bonne direction. Hein, c'est lorsque Dieu est à sa place, et moi je suis à ma place, et je sais que je suis celui qui reçoit, et lui il est celui qui donne. Après tout va bien. Nous allons prier, et soit vous pensez à vous-même, soit vous pensez à quelqu'un d'autre que vous aimez, mais on a tous quelque chose à dire à Dieu. Dire Dieu, c'est exactement ce que tel que les choses sont, et je prie pour moi, ou je prie pour quelqu'un d'autre qui est proche de moi, ou un ami, de la famille, et qu'il puisse voir. L'apôtre Paul, il avait vraiment ça à cœur, et je veux avoir à cœur aussi, pour être animé du même esprit que lui. Et je sais que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vous donne un moment de silence, que chacun peut prier dans son cœur.